Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous. C'est toujours un immense plaisir de retrouver dans ce studio Lagardère Michel Cotta, Catherine Ney, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour, monsieur. Au sommaire de cette émission, Emmanuel Macron et une campagne présidentielle qui ne dit pas son nom. Le président de la République était en déplacement à Marseille depuis 3 jours. Que se passe-t-il à gauche? Bataille interne au sein d'Europe Écologie Les Verts pour la primaire, candidature de plus en plus déclarée, mais là encore sans le dire, pour Anne Hidalgo. Et puis cette annonce attendue dans la journée vers 16h d'Arnaud Montebourg, dans sa ville natale de Clamecy, dans la Nièvre. Il n'y a pas qu'à droite que les candidatures fusent. À droite, justement, qui emportera l'investiture? En attendant les primaires, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand tentent de décrocher le sacre suprême, celui de Nicolas Sarkozy. Sarkozy, faiseur de roi, oui ou non? Les grandes voix vous répondent. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Il nous en a mis plein la vue. Si ce n'est pas votre opinion, c'était en tout cas l'objectif de ce grand déplacement de 3 jours à Marseille. Déplacement avec pour but annoncer le sauvetage financier, politique, sociétal d'une ville à 2 doigts d'être mise sous tutelle. Marseille, bien sûr, but non annoncé. Lequel? À part une entrée en grande pompe dans l'arène de la campagne présidentielle. Est-ce que c'est le marqueur d'une nouvelle ère, d'une nouvelle époque, d'un nouveau chapitre pour Emmanuel Macron?
Bah écoutez, Gérard, la campagne de France, la campagne nationale de M. Macron a commencé à Marseille. Ça, c'est un fait. C'est, je dirais même, d'une grande banalité de dire ça. Alors, pour simplement, la question, c'est pourquoi Marseille? Bah, parce que Marseille, c'est un phare. C'est une ville phare. On l'aime, on l'aime pas, on la discute, on la connaît pas. Elle est magique, romantique, sinistrée. Elle incarne tous les mots français, tout ce que vous voulez. Bon. Donc, toutes les bonnes raisons d'aller à Marseille si on veut imprimer quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a voulu imprimer? Je veux pas être long parce que je vais laisser mes amis. Il a voulu sortir de la Covid. C'est vrai que la Covid a un peu paralysé depuis 2 mois, et elle continue d'ailleurs. Mais disons, il a voulu sortir de cette Covid qui paralyse tout. Et lancer quelque part la campagne, la trame de sa future campagne. Et faute de réformes impossibles, eh bien, il esquisse la reconstruction, la modernisation, etc. On y reviendra tout à l'heure.
Catherine Ney.
Mais oui, il est arrivé avec du rêve. Parce que c'est un plan Marshall, c'est pas un plan. Parce que quand vous regardez tout ce qu'il a promis, on va refaire complètement la gare Saint-Charles, on va faire un hôtel de police qui va sortir sur Terre, on ne sait pas encore où. Il va refaire 2 grands commissariats de police, les 13e et 14e arrondissements. On va refaire une ligne de métro. On va rénover 10 000 logements, alors que dans les quartiers nord, il faudrait tout mettre par terre et reconstruire. Et tout ça, vous voyez, les études ne sont pas faites. Le financement n'est pas fait. Et tous ces grands programmes, y compris rénover les 174 écoles, elles seront peut-être rénovées dans 3 ans. C'est-à-dire que s'il est réélu, il ira peut-être inaugurer ces écoles qui ont été refaites. Donc c'est pour l'après. Mais pour l'instant, c'est le projet. Ça fait rêver. Et il revient dans un mois pour juste voir si la structure. On a mis une structure en place. C'est une société publique locale. Ça s'appelle une SPL avec le maire de Marseille. Un directeur sera nommé par l'État pour voir si tout d'un coup on met les gens en place pour se mettre d'accord. Vous voyez. Donc c'est.
C'est quoi? C'est approximatif?
C'est pas approximatif. C'est un projet qu'on lance en début de quinquennat.
Mais tout ça a été fait déjà. Tout ça a été fait.
Non, non, parce que le consensus n'a pas été réglé jamais.
Non, mais
ça a été annoncé.
Moi, je suis désolé. Mais j'ai repris le rapport 2012-2019, publié en 2019 par la Chambre régionale de la Cour des comptes en Provence-Côte d'Azur, et qui examinait ce qu'étaient devenus les 3 milliards...
De Jean-Marc Ayrault.
De Jean-Marc Ayrault, qui, le 6 septembre 2012, avait débarqué lui aussi en force pour annoncer...
3 milliards alors que c'est 1,5 milliard pour Emmanuel Macron.
Voilà, donc...
Sans compter les rénovations d'écoles qui, ça, c'est...
Alors d'accord, on a mis en place une SPL, etc. Mais il faut savoir qu'il y a un système qui a été mis en place depuis, après la guerre, par Gaston Defferre, qui est l'auteur d'ailleurs, car c'est la première ville qui a bénéficié d'une loi sur la décentralisation. Il y a donc une ironie, si vous voulez, mordante, féroce, de revenir dans cette ville qui est une ville faillie sur tous les plans. parce que c'est vrai que de toute façon, les appartements, les maisons sont vétustes. C'est vrai que les écoles sont dans un état, etc., etc. On ne va pas répéter tout ça. Mais là, il faut quand même remarquer une chose, c'est que le président de la République a débarqué avec une véritable armée. C'est vrai qu'il est le chef des armées, mais vous avez vu le nombre de fonctionnaires qui l'accompagnaient. Bon, et moi je ne crois pas un seul instant à ce qu'on puisse trouver une solution, notamment dans les quartiers dits nord, mais il n'y a pas que les quartiers nord, il y a le centre-ville. Il faut savoir qu'il y a un véritable cartel, au sens sud-américain du terme sur la drogue, qui se met en place petit à petit, bon, dans cette ville. Et donc, je ne vois pas très bien, moi, je suis stupéfait et admiratif du courage des policiers.
Michel Cotta.
Non, moi, je suis aussi... On s'est posé toute sa question. Pourquoi est-ce qu'il va à Marseille ? Bah, je trouve que franchement, c'est assez courageux d'aller à Marseille en ce moment. Quand on arrive à Marseille, où l'insécurité est totale, où des tas de gens se sont tués, y compris des jeunes gens, c'est vrai que d'une certaine façon, on affronte la réalité. Et moi, ce que j'ai remarqué quand même, c'est bien sûr, on a tous des doutes sur la faisabilité de tout ça, et surtout des doutes sur l'efficacité de la lutte contre la drogue dans les quartiers nord. Il reste que j'ai trouvé la classe politique.
Il n'y a pas que les quartiers nord.
Je connais bien Marseille aussi, il y a la Canebière, etc. Bon, mais moi, j'ai été surprise, plutôt surprise, étant donné les mauvaises conditions dans lesquelles il arrivait, par l'attitude des politiques marseillais. C'est-à-dire j'ai trouvé le maire socialiste plutôt assez coopératif. Mmh. Alors évidemment, il a quand même...
Il a appelé au secours. Emmanuel Macron arrive, il se jette dans ses bras en disant « Monsieur le Président, voilà. Marseille a besoin de vous ».
C'était aussi le cas de Martine Vassal, qui est quand même, à mon avis, beaucoup plus responsable de ce qui se passe à Marseille depuis longtemps. Le maire qui vient d'être
responsable, Michel Starrett, mais ça a commencé sous De Fer, ça continue avec Vigoureux, Parti Socialiste, avec Godin, Républicain, c'est vrai, et ça continue pour l'instant. C'est vrai que Benoît Payan appelle au secours, c'est vrai que Martine Vassal s'y est jointe, parce que quand on te propose 1,5 milliard, tu ne vas pas évidemment déarmer le regard.
La question que je me pose quand même, c'est effectivement pourquoi ces 6 millions n'ont rien donné et qu'ont fait les socialistes quand même. Les socialistes ont quand même longtemps géré cette ville, puis Godin. Mais franchement, on a envie, effectivement, si on est marseillais, de dire où tout ça est-il parti.
Alors moi, je vais essayer de t'y répondre.
Gérard Carrérou.
Je pense effectivement que sur ce projet, cette trame dont je parlais tout à l'heure, qui nous a annoncé, je trouve qu'il a été plutôt bon. Je le dis d'autant plus que je ne suis pas toujours sur cette ligne et je vais d'ailleurs ne plus y être d'ici 20 secondes. Il a été bon parce qu'il a dénoncé, par exemple, le travail insuffisant. Il a dénoncé les profs qui sont... Ce que lui disaient les femmes, les profs qui ne sont pas remplacés, etc. Il a les chicayas entre les élus, les diverses strates d'élus. La corruption, la dîme de la corruption, etc. Ça, c'est plutôt bien et courageux. Mais c'est un constat. Tout le monde sait que c'est comme ça depuis 25 ans à Marseille. Bon. Mais là où il a... Donc j'ai dit qu'il avait été bon dans ce... Il nous a fait rêver. Oui, bon, je l'ai regardé. On a tous rêvé un peu. Bon, mais sauf que énorme faiblesse de ces trois jours, c'est qu'il n'a pas traité... Je pensais, moi, qu'il était prof, une copie où on dit c'est brillant, mais c'est à côté du sujet. Il n'a pas traité à fond le sujet principal, la mère des batailles. Et la mère des batailles, c'est à Marseille, comme dans beaucoup de villes, le combat régalien pour l'autorité de l'État, pour la restauration de l'État dans les quartiers, contre les violences, les crimes, etc. Et ce n'est pas 200 policiers de plus et 200 bagnoles neuves qui vont changer la situation. Donc je trouve que là, il a joué. C'était volontaire. Il nous a époustouflés avec un grand projet pour Marseille, mais il n'a pas traité le projet principal, c'est-à-dire les 25 morts depuis le début de l'année, les Kalachnikov, les checkpoints, etc. On n'était pas là.
Une première pause et on revient dans quelques instants avec les grandes voix et le cas de Marseille. A tout de suite.
10h, 11h.
Les grandes voix d'Europe 1. Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Retour des grandes voix avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. On parle toujours de cette visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Visite politique, on va en parler dans un instant. En tout cas, peut-être qu'il s'inscrit dans une première étape de campagne présidentielle. Mais on en est toujours sur le bilan et sur cette ville de Marseille, exsangue.
Qui engloutit les millions et les milliards. Et
justement, vous avez un rapport sous vos yeux, Charles Villeneuve.
C'est le rapport de 2019 qui porte sur la période 2012-2018. Donc 3 milliards. Les difficultés, je cite, les difficultés rencontrées par la ville ont pour origine commune une absence de stratégie claire et une insuffisance dans le pilotage de ses actions, par ailleurs très peu économe des deniers publics. Comprendre, la ville de Marseille jette l'argent par les fenêtres. Mais il y a une autre ligne qui est très intéressante. La Cour parle même de comptes partiellement insincères, pointant l'absence totale de gouvernance, tant dans la gestion du personnel que dans celle du patrimoine de la ville. Elle n'est pas en mesure, cette ville, de décliner une politique adéquate d'entretien, ainsi qu'en atteste notamment l'exemple affligeant des écoles marseillaises.
C'est dans le rapport de la Cour des comptes. C'est ce que disent les magistrats de la Cour des comptes. Voilà. Michel Cotta.
D'où la nécessité, finalement, de temps en temps, qu'un président de la République s'y intéresse. Alors, que ce soit une campagne électorale qui commence, bon, on le sait, mais après tout, tout président de la République, même s'il n'est pas candidat, est toujours en campagne pour sa réélection.
Dès le premier jour de son quinquennat.
Dès le premier jour, bon. Mais je trouve que justement, s'attaquer à cette ville, alors c'est sûr que c'est pas en une visite de 3 jours qu'on s'attaque à cette espèce de désordre incroyable qui est devenu Marseille.
Donc c'est quoi
c'est
un prétexte. C'est un prétexte. Tout à l'heure, vous avez dit c'est courageux. Michel, vous avez dit c'est courageux de la Marseille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une certaine manière, il aurait pu ne pas y aller?
Oui, tout à fait. Il n'était pas obligé d'aller se mettre dans cette gueule du loup que représente à la fois l'endroit le plus insécurisé.
Oui, pour commencer une campagne.
C'est symbolique pour commencer une campagne. Maintenant, effectivement, c'est plus symbolique. On voit toutes les mesures, on sait qu'elles ne sont pas chiffrées, je veux bien. En tout cas, c'est le premier qui va leur dire, écoutez, si vous travaillez un peu, si vous ne mettez pas trop d'argent dans votre poche, peut-être qu'on peut essayer de faire quelque chose
dans 3 jours. Oui. Dans 3 jours, Michel, il y aura un mort à Marseille.
Il faut y aller.
Ou dans 2 semaines, il y aura à nouveau des checkpoints où on verra des gens et on dira à quoi ça a servi.
Parce que je voudrais dire d'un mot,
tu avais l'air de me regarder en me demandant ce que je voulais dire. Je pense qu'il faut faire à Marseille, je vais dire les choses au risque de scandaliser certains de nos auditeurs, il faut faire une forme de bataille d'Alger. Sans la torture, évidemment, vous avez tout dit.
Mais il faut faire une bataille
d'Alger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut occuper, quadriller les quartiers, éventuellement avec l'aide. Mais bien sûr, y rester pendant 6 mois, 8 mois, et ça on ne peut le faire qu'avec l'aide.
Sinon,
je finis. Je finis là-dessus. Sinon, eh bien, dans 3 jours, 2 semaines, 3 mois, ça sera. Pareil, kiff, polico.
Je vous rappelle qu'une sénatrice qui est là en place politiquement depuis 20 ans, Samia Ghali, avait déjà proposé l'intervention de l'armée. Mais ce qu'il y a de vrai sur ce plan-là, allez voir d'ailleurs Bac Nord, le film. Vous verrez, c'est une restitution assez véridique et méticuleuse de ce qui se passe dans certains quartiers. Et c'est assez impressionnant. Bon, mais il faut savoir quand même qu'il y a un véritable état parallèle qui s'est construit. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour le premier magistrat de la ville, en l'occurrence un socialiste, Benoît Payan, parce qu'il a du pain sur la planche. Gérer une ville aussi faillie que cette ville, qui est une juxtaposition de communautés, il y en a 12, si vous voulez, et c'est l'escale pérenne de toute l'Afrique du Nord et d'une partie de l'Afrique subsaharienne, qui fournit largement la plupart des trafiquants. Bon. Et c'est là la difficulté supplémentaire de gestion de cette ville.
Ce qui est intéressant dans le rapport que vous avez lu, Charles Villeneuve, c'est que ce qu'il pointe, c'est qu'il y a effectivement de l'argent qui est mis sur la table. Il n'y a personne qui contrôle derrière.
Et c'est vrai que tout à l'heure, d'ailleurs, Catherine Ney y a fait allusion, on met en place une société qui va être chargé, la SPL, qui va être chargée de flécher l'argent.
D'où le...
Pourquoi est-ce que Jean-Louis Borloo a réussi lorsqu'il a lancé sa de rénovation urbaine? C'est que lorsqu'il a lancé ça, pendant 2 ans, il a réussi à créer des structures où on savait qui faisait quoi, qui apportait l'argent, qui chaque maire, et tout ça. Ça a été quelque chose très, très, très organisé. Tandis que, et donc, après, il y a eu des résultats. Hein. On voyait des grues partout. Hein. Toutes les mairies qui ont pu se félicitent de cette politique de l'ANRU qui s'est perdue dans les sables. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il vient de faire une interview dans Zadig pour dire plus personne s'en occupe. Et on aurait dû continuer. Mais il n'y avait pas de voix politique, de ministre assez fort pour continuer sa politique. Bon, là, on a déversé de l'argent à Marseille. Mais quand ce que dit la Cour des comptes, qui est très intéressant, c'est qu'il y avait l'argent, mais pas de gens qui étaient capables de dire « Mais voilà, voilà la méthode, comment on y va avec cet argent ?» Alors on a dépensé de l'argent parce qu'il fallait payer des fonctionnaires qui faisaient je ne sais pas quoi. Et puis, ce qui est très, très, très le mal de Marseille, il y a toute la question sécurité, il y a eu le poids des syndicats. La mairie de Marseille est gouvernée par Force ouvrière. D'ailleurs, quand le président leur a dit maintenant il faut travailler, eh bien hier, le représentant de Force ouvrière, la mairie de je sais pas quoi, a vu, parce que Xavier Bertrand, qui vient souvent à Marseille, lui aussi, il l'a rencontré. Il a dit, va voir, on va nous faire des torts, qu'il nous a traités comme ça. Donc, ils l'ont très mal pris. Donc, comment va se... FO, vous savez, FO, on sait très bien qu'à la mairie de Marseille, sur les listes d'émargement des gens qui y travaillent, il y a des gens qui sont payés, on ne sait pas où ils sont, on ne les connaît pas, mais ils sont payés.
Ça vient de loin.
Ça vient de loin.
Ça vient de loi de syndicalisation.
Ça vient de Force ouvrière.
Et j'arrête.
Il y a Force ouvrière. Et le port a longtemps été en coupe réglée, la CGT. Voilà. Et si le port n'est pas...
La mairie, FO, le port,
la CGT, c'était un comportement mafieux. Je pèse mes mots.
Il ne faut pas oublier que le port est complètement écrasé par ces deux grands concurrents que sont Barcelone et Gênes. Mmh. Commercialement, c'est une catastrophe.
Alors qu'il y a un potentiel énorme.
Les croisières ne s'y arrêtent pas parce qu'ils ont peur des dockers marseillais.
Oui, c'est ça.
Donc, d'accord avec moi qu'il fallait faire une vraie tutelle, puisqu'il n'y a pas de possible. On a expérimenté depuis... Et là, je vais être droite-gauche. Hein, aussi bien les maires, Defferre, Vigouroux, Gaudin... C'est 40 ans de gestion et 40 ans de gestion non organisée, non sérieuse.
Donc,
continuer et faire ce qu'a fait Macron, c'est-à-dire dire, je vous fais confiance, et puis je reviendrai vous voir de temps en temps pour éventuellement...
Et il y a cette société quand même pour gérer l'argent. Il y a quand même la société pour gérer un peu la façon dont l'argent est distribué.
Il faut une vraie tutelle.
Je veux bien qu'on en arrive à dire qu'il faut détruire Marseille, ce qu'a dit hier Manuel Valls. Non, mais Manuel Valls, il faut détruire Marseille.
Non, il a dit qu'il faut détruire les immeubles.
C'est vrai, d'ailleurs. C'est vrai. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Moi, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens, même si on sait bien que tous les problèmes de Marseille ne vont pas être réglés en trois jours. On le sait, c'est la règle du jeu.
Je vous propose de quitter Marseille. On va s'intéresser à la gauche maintenant, juste après, avec les grandes voix, tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.